species intelligibles sont en acte, tandis qu'elles ne se trouvent dans les choses qu'en puissance. Mais nous avons vu que le Christ recevait sa science expérimentale des choses sensibles, à plus forte raison. Par conséquent, pouvait-il acquérir la science en la prenant des autres? Réponse de saint Thomas. Celui qui reçoit un enseignement d'un homme n'acquiert pas la science immédiatement à l'aide des species intelligibles, des espèces intelligibles, qui sont dans l'esprit du maître, mais par le moyen des paroles sensibles, signe des conceptions de l'intelligence. Or, de même que les mots formés par l'homme sont comme des signes de sa science, de même, les créatures établies par Dieu sont les signes de sa sagesse. De là cette parole de l'Ecclésiastique. Dieu a répandu sa sagesse sur toutes ses œuvres. Et comme il est plus noble d'être enseigné par Dieu que par les hommes, il vaut mieux par conséquent acquérir la science par le moyen des créatures sensibles que par un enseignement humain. C'est très très joli ça. Vous voyez donc, du côté de l'intelligence, il faut accepter les intermédiaires nécessaires, mais pas en ajouter. Du côté de l'amour, on peut en ajouter. C'est un raisonnement inverse, hein, au point de vue de l'économie divine. C'est très intéressant à rapprocher les deux. Saint Thomas dit, au point de vue de l'économie divine, que les instruments surabondent avec la nouvelle alliance. Parce que comme ça, la miséricorde peut aller plus loin. Et vous êtes du côté affectif, du côté de l'amour, la communication d'amour. Tandis qu'ici, il prend un raisonnement inverse du côté de la connaissance. Du côté de la connaissance, si on peut télescoper l'enseignement et prendre directement l'enseignement à partir des réalités, soyez le bon sauvage qui apprend tout par lui-même, à partir de lui-même. Hein, c'est extraordinaire, ça. Hein, pas très loin comme raisonnement de saint Thomas. Acceptons notre conditionnement humain qui reçoit d'autres hommes certaines données pour aller plus vite.
Est-ce que vous n'avez pas dit un jour que l'enseignement, c'était une miséricorde?
Oui, tout à fait. Oui, c'est une miséricorde, hein. C'est une miséricorde pour à l'égard du misérable, mais le Christ ne l'était pas misérable dans ce domaine-là. Il a été le plus pauvre du côté affectif, du côté des biens temporels, mais pas du côté de la noblesse de l'intelligence.
Mais en vivant dans un état sauvage, vous dites, est-ce que vous croyez que vous pouvez dépasser ceux qui ont acquis une sagesse et qui veulent l'enseigner?
Quoi? Non, mais c'est ce que je veux dire, ce que je veux montrer, c'est que le raisonnement de l'économie divine est autre par rapport à l'amour, autre par rapport à l'intelligence. Par rapport à l'intelligence, si, en raison même de la dignité de l'intelligence du Christ, il peut ne pas avoir de maître, c'est divine. Tandis que du côté de la miséricorde, c'est l'inverse. Du côté de l'amour, c'est l'inverse. Dieu multiplie les instruments. Et c'est vrai, il a voulu que Jésus ait une mère. Il n'a pas voulu qu'il ait une maître. Oui. Il a voulu qu'il ait une mère. Donc il y a un intermédiaire du côté de la maternité, il n'y a pas d'intermédiaire du côté du maître. C'est ça que je vais te souligner, vous voyez. C'est très beau à regarder, ça. À considérer. Et ça, c'est la noblesse de l'intelligence. Oui.
On peut pas répondre dans le même sens, mais d'une façon différente, en disant que le véritable enseignement d'une vérité humaine ne donne pas la science de l'homme, mais aide à découvrir. Voilà. C'est peut-être plus simple, ça passe sa manière de sagesse directement.
Ça donne
la sagesse,
ça joue pour les aspects.
Et aussi, on pourrait dire que.
Ah, il aurait géré. Vous exercez votre tel état agent quand vous recevez l'enseignement.
Mais peut-être que son groupe est pur quand vous êtes à partir de la maison.
C'est ça qui m'intéresse, c'est que du côté, vous voyez, de ce côté-là, il veut l'autonomie la plus profonde et la plus radicale en raison de sa dignité.
C'est seulement les mots qui sont télescopés, pas les spéciesses.
Non, les spéciesses sont forcément, c'est à la place d'être par l'intermédiaire du mot, c'est l'intermédiaire des réalités.
Oui. Toujours de la réalité.
Ah non, non, non.
Évoqué par les mots.
Évoqué. Donc c'est toujours. Les mots évoquent en vous l'image. Et c'est par l'image que les spécies sont. C'est au niveau de l'image, vous voyez. C'est le par le dialogue, par l'enseignement, la parole éveille en vous une image. Cette image est en référence forcément avec vos expériences. Vous pouvez très bien avoir eu cette expérience. Oui. Alors, vous avez uniquement une image, et à partir de cette image, il y a une richesse. Mais ça redemandera, oui, de revenir à la réalité. Puisqu'autrement, vous restez au niveau de l'opinion. Donc, il faudra le retour à la réalité pour pouvoir soi-même redécouvrir à partir de la réalité. Alors, seconde objection. Autrement dit, cet article-là est très intéressant pour montrer le rôle exact de l'enseignement. C'est une des choses qu'on ne voit pas souvent, mais c'est intéressant. C'était deux aspects complémentaires. Acquérir la science auprès d'un maître semble plus noble que la recevoir des choses sensibles. Car dans l'âme de l'homme qui enseigne, les espèces intelligibles sont en agir, tandis que ça se trouve dans les choses en puissance. C'est ça, on a vu ça. C'est la troisième objection, pardon. Nous venons de voir encore que le Christ, par sa science expérimentale, n'a pas connu toute chose dès le principe, mais qu'il y a eu progrès dans sa connaissance. Or, quiconque entend un discours signifiant quelque chose peut en apprendre ce qu'il ne sait pas. Le Christ a donc pu apprendre des hommes certaines choses que sa science acquise ne lui avait pas encore fournies. Jésus progressait en science expérimentale en même temps qu'il croissait en âge, ainsi que nous l'avons dit. Mais il est un âge requis pour que l'homme acquière la science par ses propres recherches, comme aussi pour qu'il la reçoive par un enseignement. Or, le Seigneur n'a rien fait qui ne convienne à son âge, qui ne convient à son âge. C'est pourquoi il n'a prêté l'oreille aux discours de doctrine que dans le temps où il pouvait acquérir les mêmes connaissances par la voie de l'expérience. De là cette parole de Saint Grégoire, lors de sa 12e année, il daigna interroger les hommes sur la terre, parce que normalement le discours doctrinal ne convient qu'à l'âge parfait. Vous voyez, à fond, c'est très délicat, cette question-là. Conduit par la sagesse de Dieu, alors, radicalement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure à propos de Marie. Je crois qu'il y a quelque chose de très intéressant là-dessus, c'est de voir que Jésus n'a jamais voulu manifester des prodiges. Et je crois que c'est ça la raison profonde. La vie cachée du Christ fait que la science infuse du Christ et sa science expérimentale parmi nous ne s'est jamais manifesté d'avance. Il n'a pas pris, quand il avait 3 ans, la Torah, et a montré à Marie, je la connais. Ça, c'est fait partie des légendes qu'on montre ça. Jésus n'a pas dit, petit oiseau, viens dans ma main. Il s'est conformé entièrement au rythme de la vie humaine. Et cependant, intérieurement, tout était connu d'une autre manière. Mais tout restait caché. Donc, il y a les deux aspects, je crois, et c'est, je crois, la raison profonde de cet atertio, plutôt que de dire qu'il s'est conformé à l'âge. Je crois que c'est pour maintenir le point de vue d'une vie cachée. Oui.
Est-ce que, enfin, là, il traduit exactement une parole.
Qu'est-ce qu'il y a?
Que traduisent accommodabit, de manière qui n'est pas.
D'accord. accommoda vite. C'est accommodé. Où est-ce que c'est l'intention?
Oui, dans l'intention.
C'est pourquoi il m'a prêté l'oreille jusqu'aux doctrines, que dans le temps où il pouvait acquérir les mêmes connaissances par la voie d'expérience. Cet idéum, audientis doctrine sermonibus, non accommodavit.
C'est assez discutable de traduire accommodavit par prêter l'oreille.
Prêter. Oui, c'est prêter l'oreille.
Oui, mais...
oui. Si non audiendo doctrine sermonibus, non accommodavit auditum, nisi illo tempore, quo poterat essiam per viam experientiae, talem scientiae gradum attingisse. Vous voyez, alors c'est, je crois, hein, c'est accommodavit, c'est se mettre, quoi?
C'est faire sien.
Oui, se faire sien. Oui.
Ça veut dire qu'en fait, il a bien reçu les discours. Et...
il les a reçus, mais ces discours n'ont pas été pour lui source de science. Oui, il les a reçus, oui. C'est ce que je disais tout à l'heure, il était attentif. Il était très attentif quand Marie lui parlait. Il était très attentif. Hein. Mais cette attention avait un autre but que lorsque moi je suis attentif à quelqu'un parce que je reçois son enseignement. Alors je suis attentif à cause de ça. Lui était attentif pour nous donner l'exemple. Pour nous donner l'exemple de l'humilité de celui qui reçoit. Mais lui, il n'en avait pas besoin. Et sa science venait d'autre part. Et sa science demeurait cachée de cette manière-là, parce qu'à cet âge-là, il pouvait recevoir la science de celui-là. Donc vous voyez, c'est qu'au fond, le rythme extérieur et le rythme intérieur de l'âme de Jésus qu'il faut, je crois, saisir là. Pour demeurer caché, il n'a jamais manifesté sa science infuse avant qu'il aurait pu l'acquérir. Selon l'âge normal. Oui, oui.
Est-ce qu'on ne peut pas dire aussi que quand on a une connaissance, écouter l'autre et se faire enseigner par l'autre, c'est l'enseigner?
Oui, c'est aussi, ça c'est sûr. Quand vous écoutez, quand vous êtes plus intelligent que quelqu'un, et que vous l'écoutez, vous lui permettez d'aller plus loin dans sa science. Parce qu'il y a un appel.
Et donc c'est une façon d'éduquer Marie, la sobriété de
faire. Tout à fait, c'est tout à fait. Par une acuité, une présence plus grande. Alors, dernier article, le Christ a-t-il reçu des anges quelque enseignement ? Humaine Denis écrit que les anges supérieurs interrogent Jésus et apprennent à connaître son œuvre divine et son incarnation, et qu'il les enseigne, lui, Jésus, sans intermédiaire. Conclusion, l'âme humaine est intermédiaire entre les substances spirituelles et les réalités corporelles. Aussi, leur revient-il d'être perfectionnée de deux manières. D'une part par la science qu'elle tire des réalités sensibles, d'autre part par la science infuse, imprimée en elle par l'illumination des substances spirituelles. Or, de cette double façon, l'âme du Christ fut perfectionnée. Des résultats sensibles, elle reçut la science expérimentale, et pour cela, point n'était besoin de lumière angélique. La lumière de l'intellect agent était suffisante. Quant à la science infuse, l'âme du Christ l'a reçue par une influence supérieure qui venait immédiatement de Dieu. C'est d'une manière extraordinaire, en effet, que cette âme fut unie au Verbe de Dieu en l'unité de personne. C'est également d'une manière extraordinaire qu'elle fut immédiatement remplie de science par ce même Verbe de Dieu, sans passer par l'intermédiaire des anges. Quant à ceci, c'est dès leur principe qu'ils reçurent du Verbe la connaissance des choses, ainsi que le dit saint Augustin. C'est facile à comprendre, les anges ne sont pas intervenus dans l'acquisition des sciences du Christ. Il avait deux sources plus immédiates, les réalités et le Verbe de Dieu. Donc l'horizon, l'âme du Christ comme horizon, Non, c'est ce point de vue-là. C'est intéressant de voir ce que dit saint Thomas. Notre âme humaine est entre les réalités sensibles et puis les réalités spirituelles. C'est-à-dire les anges. Notre âme humaine, unie au corps, par le corps, c'est les réalités sensibles, par l'immortalité, c'est l'âme du Christ. Par son corps, demeure liée aux réalités sensibles qui lui apprennent quelque chose, science acquise, toutes les réalités sensibles. Donc, Marie qui lui parle, il acquiert quelque chose, il a une expérience, le Père. Vous voyez ? L'horizon de notre âme humaine est l'horizon de l'âme du Christ.
Foi aussi,
on dit. Ah oui, mais c'est naturel. Hein, si. Je prends le statut existentiel.
Le Christ,
c'est toute la grâce. Ah oui, c'est évident. C'est intéressant, point de vue horizon. Vous ne pouvez pas mettre un horizon. C'est ce que saint Thomas souligne là. Mais c'est pour ça qu'il parle des anges, pour montrer le télescopage. C'est évident que ce point de vue surnaturel, je ne peux pas parler du Christ en dehors du point de vue surnaturel, tandis que je peux parler de l'âme humaine. Nous avons un statut ontologique qui doit se comprendre. Tandis que Jésus, son statut ontologique, est tout de suite surnaturel. Alors, voyons la première objection. Nous lisons dans saint Luc qu'un ange du ciel apparut au Christ, le réconfortant. Mais ce réconfort se fait par des paroles d'encouragement doctrinal. Ainsi qu'il est écrit dans Job, « Voici que tu as enseigné la sagesse à beaucoup, tu as fortifié les mains débiles, tes paroles ont révélé ceux qui chancelaient, ont relevé ceux qui chancelaient. » Le Christ a donc enseigné été enseigné par les anges. Ce réconfort apporté par l'ange ne se fit pas par manière d'enseignement. Son but était seulement de manifester les propriétés de la nature humaine. C'est pourquoi saint Bède écrit dans son commentaire de saint Luc, c'est pour manifester l'une et l'autre nature que nous voyons d'une part les anges le servir et d'autre part le réconforter. Le Créateur en effet n'a pas besoin du secours de sa créature, mais c'est en fait homme, de même qu'il consent pour nous à être triste, de même pour nous il consent à être réconforté, afin qu'en nous la foi à l'incarnation se trouvera fermée. Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi regarder le point de vue de l'intelligence et le point de vue de l'affectif ? Mais, du côté affectif, il y a une médiation, du côté intelligence, pas de médiation. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ça revient au même, le raisonnement de saint Thomas est juste. Mais il y a peut-être quelque chose qui me semble être intéressant à noter au point de vue de l'économie divine, c'est ce point de vue-là. Oui ? Non, pas du tout. Non, ce raisonnement est très très, très juste. Il montre que Jésus... Vous voulez dire que...
Il irait contre le réalisme de la révélation. Ce serait un simulacre de la part de l'homme. Jésus n'a pas vraiment été réconforté, si vous entendez bien.
Il a été réconforté. C'est pour ça que je mets, moi, le point de vue affectif. Vous voyez ?
Oui, mais bien d'accord. Mais
oui.
La réponse de Bède...
Oui, la réponse de Bède est un peu à côté. Mais c'est toujours un peu Bède. Pas très fort, mais vous allez lisez un peu pour vous expier vos péchés. Réponse seconde objection. Denis écrit : Je crois en effet que ce même Jésus substance transcendant les substances supracélestes. Ça, c'est du style de Denis, ça, une autre tenue. Et descendu sans changer jusqu'à notre substance, qu'il s'est soumis et rendu obéissant au Père, ainsi qu'aux instructions de Dieu transmises par les anges. Il semble donc que le Christ a voulu se soumettre à l'ordre de la loi divine dont les hommes sont instruits par le moyen des anges. Denis dit, réponse de saint Thomas, Denis dit que le Christ a été soumis aux instructions angéliques, non pas pour lui-même, mais en raison des faits qui devaient se produire lors de son incarnation, en raison aussi du service que pendant son enfance les anges devaient lui rendre. Aussi, ajoute-t-il, que ce fut par le moyen des anges que Joseph apprit du Père qu'il lui fallait se rendre en Égypte, puis plus tard revenir en Égypte. Mais ça, c'est par Joseph. Il était soumis à Joseph, et donc par l'intermédiaire de Joseph, pas directement. Je crois que c'est la distinction intelligence et affective qui nous fait le mieux comprendre ça. Alors, dernier point de vue, ce qui est intéressant, c'est parce que dernier aspect, de même que le corps humain est naturellement soumis au corps céleste, de même l'esprit humain se trouve soumis aux esprits angéliques. Mais le corps du Christ est soumis aux impressions des corps célestes. Il a éprouvé en effet la chaleur en été, le froid en hiver, ainsi que les autres souffrances humaines. Son corps humain était donc lui aussi soumis aux illuminations des esprits supracélestes. Le Fils de Dieu, réponse de saint Thomas, a pris un corps passible, comme nous le dirons plus loin, mais son âme fut parfaite en science et en grâce. C'est pourquoi il convenait que son corps fût soumis à l'influence des corps célestes, tandis que son âme devait rester indépendante de l'action des esprits célestes. Ça aussi, c'est très joli. C'est très beau. Le partage des eaux. Le corps soumis et l'âme autonome.
Justement, par rapport à la première objection, est-ce que l'intervention de l'ange ne porterait pas sur son corps un réconfort qui serait...
Oui, on peut le dire aussi. Moi, j'aime mieux dire affectif. Parce que l'affectivité, vous voyez, c'est plus immédiatement, c'est par l'affectivité que notre corps est soumis. Vous voyez, quand nous sommes tristes, notre corps... empathie. Quand nous sommes réconfortés, par notre âme réconfortée, notre corps est réconforté. Et je crois que c'est plus comme ça qu'une assistance immédiate, extérieure, médicale. L'ange médecin, disons. Alors, je reviens un instant sur la question de la science infuse. La science infuse n'est pas les dons. Et je crois qu'il faut maintenir la différence entre les deux. Alors, mais le propre de la science infuse, c'est de donner un habitus qui est reçu directement de Dieu. Un habitus infus. Et quand on dit infus, on veut dire que le mode d'acquisition, donc la cause efficiente de cet habitus, provient directement de Dieu. Il n'est pas acquis par mode humain. Donc il est reçu directement de Dieu. Cet habitus infus est reçu donc dans l'intelligence et permet à l'intelligence d'acquérir une perfection nouvelle. La perfection qui regarde cet habitus infus. Donc cet habitus infus qui est reçu directement de Dieu a un objet propre. Tout habitus. Il a un objet propre déterminé. Cet habitus infus, c'est pour permettre à Jésus d'être tête de toute l'humanité. Donc, il connaît par cet habitus infus tout ce que la tête doit connaître. Donc, c'est la connaissance, avant tout, de l'homme, au sens propre, et de l'homme religieux, de l'homme dans sa totalité. De sa capacité de Dieu qui est connue par cet habitus infus. Et cet avis que tu as vu s'étend à tout ce que la tête doit connaître. Donc la destinée de l'homme. C'est toute la destinée de l'homme, l'orientation de l'homme, ce vers quoi l'homme est ordonné. Est ordonné vers Dieu. Les dons du Saint-Esprit sont des habitus. Infus, eux aussi. Donc du côté de la cause efficiente, il y a quelque chose de semblable. Du côté de leur détermination habitus, il y a quelque chose de semblable. Ce sont des qualités. Et l'habitus infus reste une qualité de l'intelligence et reçue directement dans l'intelligence. Les dons du Saint-Esprit ne sont pas premièrement des qualités de l'intelligence. Ils proviennent de la charité. Et c'est par la charité qu'ils atteignent l'intelligence par l'intermédiaire de l'amour. Donc ce sont des connaissances affectives. Avant tout, parce que c'est par la charité et dans la charité. Donc, le don d'intelligence du Christ, le don de science du Christ, n'est pas la science infuse. De plus, cet habitus infus a comme rôle particulier de ne pas nous il ne nous apporte pas un nouvel objet, il nous apporte un nouvel exercice. Tandis que l'habitus infus apporte un nouvel objet. Donc il y a acquisition d'un nouvel objet. Donc là, c'est uniquement au niveau de l'exercice. Donc il faut bien distinguer l'habitus infus de science infuse et les dons du Saint-Esprit. Troisièmement, troisième distinction, les charismes. Est-ce que la science infuse est charismatique? Est-ce que ce serait le charisme par excellence qui commanderait tous les charismes?
C'est pour la perfection du Christ et la science
infuse. C'est ça, très bien. Et pas uniquement pour les titres. C'est pas de l'ordre de l'utile. Même si c'est un utile divin, c'est quelque chose de plus. C'est de l'ordre de la dignité de l'intelligence humaine. Ça permet la perfection de l'intelligence humaine. Ça permet à l'intelligence humaine du Christ d'être parfaite. C'est toujours ce que Saint Thomas dit. Tandis que les charismes n'apportent pas la perfection. C'est pas parce que j'ai le don de guérir quelqu'un que je suis tout parfait. Tandis que l'habitus infus, c'est vraiment pour la perfection de l'intelligence du Christ, la dignité de l'intelligence du Christ. Donc, c'est autre chose. Cependant, il y a un certain lien, puisque de fait, l'habitus infus est donné pour qu'il exerce le rôle de tête. Alors, c'est un rôle de gouvernement. Or, il y a un charisme de gouvernement. Alors, est-ce que la science infuse du Christ fait que le Christ n'avait plus besoin de charisme? Je pose des questions pour creuser un peu.
Le charisme, ça supplée un manque.
Qu'est-ce qu'il y a?
Le charisme supplée un manque.
Il a besoin des charismes. Du cerveau sapientier. Nous avons besoin du cerveau sapientier pour énoncer clairement, de la manière la plus pénétrante qui soit, les grâces d'oraison que nous avons reçues. Les grâces intimes de notre perception du vécu divin. Nous avons besoin du cerveau sapientier.
C'est pour la communication.
C'est pour la communication, c'est de l'ordre de l'utile. Pour permettre aux autres, pour réchauffer l'Église, la communauté. Alors, est-ce que le Christ avait ça? Ou est-ce que l'habitus infus de science suffit?
Le Christ était prophète aussi.
Quoi?
Donc, il avait nécessairement...
Oui, prophète. Mais est-ce qu'il était prophète? Est-ce que l'habitus infus ne suffit pas? Est-ce que la science infuse ne suffit pas? La science infuse est plus que le don de prophétie. Charismatique. De façon permanente. Hein. Le prophète, il reçoit ça par moment, vous savez bien. Hein. C'est le charisme prophétique, c'est par moment. On est illuminé pour faire un geste prophétique. quelquefois c'est dans le côté, mais ben, c'est par moment. C'est, ben, on ne possède pas un charisme. C'est par moment. Tandis que là, il y a un habitus qui fait que le Christ possédait la science infuse. Et pouvait par le fait même, lui, connaître parfaitement, il n'y avait pas besoin. Donc au fond, la science infuse hein, va remplacer certains charismes. Pas tous, je crois. C'est le charisme intellectuel. C'est les charismes de l'intelligence. Donc ça supprime. Mais voyez, c'est pour ça qu'il y a quelque chose qui est, au fond, est dépassé. C'est le, je veux dire, dans cet ordre-là, il est le premier qui commande tous les charismes. Alors il y a un lien entre la science infuse et les charismes. Parce que c'est le point de vue de la tête. Et alors que les charismes sont pour qu'on soit les membres de la tête, dans l'ordre de l'efficacité. Mais évidemment, le charisme de gouvernement, par exemple, hein, ne peut pas uniquement se ramener à la science infuse. Il y a quelque chose de plus. Il y a du reste tout de suite la question après, vous voyez, c'est la puissance de l'âme du Christ. Donc, l'habitus infus, la science infuse du Christ, n'est pas un charisme. Je ne crois pas qu'on puisse dire que c'est un charisme. Que c'est la dignité d'intelligence, c'est pour la perfection de Christ. Cet habitus est tellement grand qu'il va faire que, à partir de là, on pourrait dire que tous les charismes que le Christ pourra posséder seront dépassés et seront, si vous voulez, exercés d'une manière unique grâce à ça.
Ne dit-il pas que le Christ fait posséder cette dignité de la science infuse pour sa mission. Et donc finalement, ça se ramènerait à un charisme.
Non. Parce que le charisme, c'est dans l'ordre dignitaire.
Il y a certains charismes qui perfectionnent aussi celui-même.
Ah oui, le charisme sermo sapientiae. Ça se perfectionne, c'est évident.
Parce qu'il doit être perfectionné pour communiquer sa charisme, donc il s'en rassure beaucoup plus profondément dans l'intelligence. Hein. Et les autres sont plus de l'ordre du faire. Donc, certains charismes perfectionnent également la nature.
Oui, mais vous voyez, perfectionner la nature, ce n'est pas le rôle premier du charisme. C'est de permettre pour l'utiliser.
C'est sa finalité comme celle du Christ
aussi. Ah oui, mais sa finalité est très différente. Hein. C'est la finalité de la tête pour sanctifier toute la tête. Hein. Ah oui.
Est-ce qu'on retrouve c'est... la grâce capitale puis la grâce personnelle.
Oui.
Montrant en fait la grâce capitale se ramène
à la grâce personnelle, c'est la même chose ici. Mais ça se rattache à la grâce personnelle, ça.
Il y a un ordre entre les deux, la grâce personnelle et l'intérieure.
C'est la plénitude de grâce du Christ qui implique ça pour jouer ce rôle de tête par rapport à l'Église. Alors, il y a une parenté avec les charismes, mais on pourrait dire que c'est parce qu'il est le premier dans l'ordre charismatique qu'il y a ça.
Il y a un ordre.
Il est le premier, mais c'est au-delà du charisme. Je ne peux pas expliquer la grâce infuse uniquement par le point de vue charisme. Je peux, alors au contraire, et ce serait alors très intéressant à voir, parce que ça n'a pas été fait, rattacher tous les charismes à la science infuse du Christ. Ça me serait beaucoup plus intéressant. Parce que ça donnerait aux charismes chrétiens leur véritable dimension. C'est pour être relié au Christ tête. Oui, c'est pour être relié au Christ tête que le Christ donne, que l'Esprit Saint donne les charismes. Ce serait peut-être, voyez, la manière dont on pourrait compléter le traité des charismes chez saint Thomas en le rattachant à la science infuse du Christ. En le rattachant, en montrant la connexion qui existe entre tous les charismes et la science infuse du Christ. Le Christ étant le premier, et on est dans l'ordre de l'exécution, ou dans l'ordre de l'exécution, ou dans l'ordre de la communication de la doctrine.
Oui. Dans ces cas-là, on peut dire que le charisme de l'infaillibilité, c'est le premier, parce qu'il est le plus proche. On pourrait dire que le charisme de l'infaillibilité serait le premier charisme, parce qu'il est le plus proche de ce que la science infuse.
Oui, oui.
Donc, pour rattacher le plus immédiatement.
Du reste, c'est plus,
l'esprit, c'est un charisme, si vous voulez, dans le sens que ça permet une grâce charismatique par rapport aux autres, par rapport à l'Église. Et c'est beaucoup plus que dans l'ordre utilitaire. Et c'est ce qu'il nous dit à propos du sermon sapiens, il y a quelque chose de plus que l'ordre utilitaire. Et au fond, c'est le rattachement, oui, ce serait intéressant à voir et à étudier. Je ne crois pas que ça a été fait. Parce qu'on ne regarde pas beaucoup la science infuse du Christ. Et alors, regarder cette science infuse du Christ comme donnant une explication. Vous voyez, voilà un très beau sujet à faire pour les charismatiques. Hein. Très beau sujet à faire, c'est quand même montrer ça. Alors, parler au mois de juillet, je vois ça. Comment la grâce, la science infuse du Christ est la clé de tous les charismes.
Mais
ce que je veux voir, c'est quelque chose à un lien plus immédiat.
Il faut les deux, parce que la science,
La science infuse ne peut pas se comprendre seule, n'est-ce pas ? C'est sûr, mais c'est quand même le métaxu, c'est ça qui m'intéresse.
Il y a certains charismes qui ne passeront pas par la science infuse.
Lesquels ?
Les guérisons.
Lesquels ? Les guérisons passent par la science infuse. Mais c'est évident, c'est la connaissance de l'homme. Et de la santé de l'homme.
La connaissance
de la santé de l'homme et permettre à l'homme d'être en pleine santé pour être parfaitement ce qu'il doit faire.
C'est une participation à la toute-puissance divine.
Oui, c'est sûr. Mais c'est relié à la science infuse, c'est ça que je vous dis, la connaissance plénière de l'homme. Alors ça passe évidemment par la puissance. Tous les charismes qui sont plus de l'ordre de l'exécution, comme on disait tout à l'heure, qui sont donc plus inférieurs, impliquent le point de vue de la puissance. Alors vous avez la puissance de l'âme du Christ qui vient ensuite. Mais ce que je veux dire, étant donné que toujours, l'ordre de la connaissance permet de hiérarchiser et d'ordonner, c'est donc bien la science infuse du Christ qui permettrait d'organiser ça, d'une façon plus immédiate. Oui ?
Est-ce que ça se rattacherait au fait que tout à l'heure, quand vous distinguiez l'ordre de l'amour affectif et puis l'ordre de l'intelligence, il y avait moins d'instruments du côté de l'intelligence ? Donc, une plus grande miséricorde de Dieu de ce côté-là, où il y a moins de... C'est plus difficile pour l'homme.
Il y a moins d'intervention de Dieu, parce que Dieu veut que l'homme soit plus autonome. C'est ce que je vous avais dit une fois à propos de la conversion. Dieu convertit notre cœur et veut que nous convertissions nous-mêmes notre intelligence. Oui, c'est la même chose. Dieu convertit notre cœur et Dieu veut que nous-mêmes nous convertissions notre intelligence. C'est très rare que Dieu donne une grâce de rectifier quelqu'un qui a été cancien toute sa vie, n'est-ce pas, notre cher Clavel, il a été cancien toute sa vie, il reçoit une lumière qui convertit son cœur, il reste cancien. Dieu ne lui a pas donné une lumière qui a fait que Kant est fondu en larmes, n'est-ce pas, en disant après, il n'y a pas que des cancien, mais c'est toujours la vie. Non, Dieu lui donne une grâce de lumière qui doit, une grâce, je dirais, qui convertit son cœur, et convertissant son cœur, il doit comprendre que c'est lui-même qui doit convertir l'intelligence. Vous voyez, c'est le même principe au point de vue de l'économie divine. Oui.
Est-ce que pour revenir à la science infuse, si on a 2 minutes, regardez les dons par rapport aux objets.
Ah oui, vous revenez à votre question. Ça vous tracasse, cette vision médique, les dons. C'est par la charité. La clé, c'est la charité. Vous voyez, la vision béatifique est donnée dans le prolongement de la charité. Et les dons, c'est la même chose pour les dons. C'est donc tout le point de vue de la charité qui commande le lien entre la vision béatifique et les dons. C'est pas la connaissance. C'est la charité. Vous voyez ? Tandis qu'ici, au contraire, et c'est ça qui me semble intéressant, c'est intéressant à creuser, parce que j'avoue que j'avais jamais essayé de comprendre les charismes, mais il y avait quand même quelque chose qu'il fallait chercher. On le verra, les charismes dans le Christ, hein, on le verra la question. Et c'est quand même curieux, et je crois qu'il y avait quelque chose à creuser, de voir ce lien, alors, par un point de vue de l'ordre, point de vue de l'ordre de l'intelligence. Alors, demain, si vous le voulez bien, on verra la question 13, la puissance de l'âme du Christ. À la même heure.